Phénomènes étranges et inexpliqués, histoires insolites, énigmes non résolues, mythes et complots.
Christian Page, bonjour.
Salut Mathieu.
Parlons cette fois de l'évasion d'Alcatraz. Évasion réelle, mais où sont les survivants?
Voilà, parce que c'est la grande question quand on parle de grandes énigmes historiques. Bien, évidemment, au 20e siècle, l'une de ces énigmes qui tient le haut du pavé, c'est cette évasion d'Alcatraz qui a eu lieu le 11 juin 1962. Donc, je te rappelle un peu les événements. D'abord, parlons de ce pénitencier, hein, oui. Alcatraz, qu'on surnomme le Rock, le rocher, parce que c'est un pénitencier qui est construit sur une roche, hein, littéralement un immense rocher qui est à fleur d'eau dans la baie de San Francisco. Donc, d'abord, à la fin du 19e siècle, la moitié du 18e jusqu'au début du 19e siècle, c'était une garnison militaire. Il est devenu ensuite une prison militaire jusqu'au début des années 30. Et ensuite, de 1930, du début des années 30 jusqu'à 1963, il va devenir un pénitencier à sécurité maximum. Jamais personne n'a réussi à s'évader avec succès d'Alcatraz. Donc, en fait, quand les...
Et c'est à bonne distance de la côte, là, déjà.
Voilà, quand les gens disaient, puis c'est beau parce que quand on est à San Francisco, je sais pas si tu es allé à San Francisco, c'est le fun de voir le pénitencier dans la baie, c'est toujours très impressionnant et je pense que le cinéma exploite beaucoup cette image-là. Dès qu'on voit San Francisco, évidemment, ce sont les rues en pente et dans la baie de San Francisco, le pénitencier d'Alcatraz. Quand les prisonniers étaient transférés à Alcatraz, c'était vraiment c'était vraiment la station en bout de ligne, là. C'est-à-dire que ces gens-là avaient essayé de s'évader de d'autres pénitencier à sécurité maximum dans différents États. Évidemment, c'est une législation fédérale et les prisonniers étaient envoyés à Alcatraz, d'où on ne s'évadait pas. Quand on disait on ne s'évadait pas d'Alcatraz, c'était pas on ne peut pas sortir du pénitencier. C'est qu'une fois que tu auras sorti du pénitencier, si tu arrives jusque-là, il te faudra traverser les eaux de la baie de San Francisco. Ce sont des eaux qui sont glaciales, il y a un fort courant et on aimait laisser croire aux prisonniers que la baie était infestée de requins, ce qui n'était pas vrai, mais évidemment, ce n'était pas sûr. C'était dissuasif. Donc, des gens ont réussi à s'évader d'Alcatraz. Certains ont même réussi à franchir la baie à la nage. Mais je pense, par exemple, à un prisonnier qui, lorsqu'il est arrivé de l'autre côté, il était tellement épuisé qu'il s'est écroulé sur la berge et les policiers n'ont eu qu'à le récupérer. Donc, jamais personne n'a réussi une évasion avec succès d'Alcatraz. Ce qui nous amène à ce 11 juin 1962. Alors, il y a extinction des feux vers 21h30. Et à ce moment-là, trois prisonniers, Frank Morris et les frères John et Clarence Englund, depuis des semaines, travaillent à cette idée de l'évasion. Ils ont réussi à prendre avec des outils artisanaux un manche de cuillère, par exemple, volé à la cafétéria, un petit morceau de bois ici, à gauche, à droite, pris au magasin. Ils ont réussi à déceler, si je puis dire, la grille qui est au fond de leur cellule. Et derrière cette grille, il y a un corridor de service. Et c'est en fait le talon d'Achille du pénitencier d'Alcatraz et nos trois prisonniers ont bien l'intention d'en profiter. Donc, ils ont défait la grille qui leur permet d'avoir accès à ce fameux corridor de service. Il y a un quatrième prisonnier avec eux qui doit participer à l'évasion, un dénommé Alan West. Mais il n'a pas assez découper, si je puis dire, son mur. Et le soir de l'évasion, il sera incapable de se glisser dans l'ouverture au moment où les autres vont s'évader. Il va réussir à le faire, mais lorsqu'il va arriver sur le toit, 2 heures après que ses compagnons aient déjà quitté les lieux, il va rebrousser chemin et retourner dans sa cellule. Donc, ce soir-là, 21h30, c'est l'extinction des feux. Les frères Englund et Frank Morris vont réussir à se glisser dans le tunnel de service, dans le corridor de service, monter jusque sur le toit de la prison, sortir du pénitencier, et avec des imperméables volés dans le magasin de la prison, ils se sont fait des espèces de flotteurs, de radeaux, un peu artisanal, et avec ça, ils vont quitter l'île. On ne reverra jamais les trois prisonniers. Donc, le lendemain, lorsque les policiers font l'appel des prisonniers, on constate effectivement dans la cellule des frères Englund et de Frank Morris une espèce de demi-tête faite avec du papier mâché, assez sommaire, avec des cheveux qu'on a volés à l'atelier du barbier pour donner l'impression qu'il y avait là des gens qui dormaient dans leur couche. Et là, donc, l'alerte est donnée. ce Alan West, qui devait être le quatrième à participer à l'évasion, évidemment, est vite questionné et il va révéler les plans de ses compagnons. Les hommes devaient s'évader du pénitencier, traverser, se rendre jusqu'à Angel Island, qui se trouve également dans la baie de San Francisco. C'est une île à peu près inhabitée. Il y avait une ancienne station militaire qui a été abandonnée après la Deuxième Guerre mondiale. Et de là, les trois prisonniers comptaient traverser le petit bras d'eau qui sépare du continent, voler une voiture et prendre la poudre d'escampette. Les policiers, immédiatement, c'est la plus grande battue, la plus grande recherche qui sera déclenchée par les services de police. C'est le FBI, évidemment, puisque c'est un crime fédéral. C'est la plus grande recherche déclenchée par le FBI depuis l'enlèvement du bébé Lindbergh dans les années 30. Et on va retrouver près d'Angel Island un petit sac qui contient des effets personnels appartenant aux trois évadés. Mais sur place, on ne retrouve rien. Un mois plus tard, on va trouver également un cadavre à la dérive dans la baie de San Francisco. Mais le cadavre est en état de décomposition trop avancé pour qu'il puisse être formellement identifié. Il faut se rappeler qu'en 1962, les techniques médico-légales ne sont pas les mêmes qu'aujourd'hui. Et là, les semaines s'écoulent et il n'y a pas d'autres crimes. Il n'y a pas de voiture qui est volée, les prisonniers réapparaissent pas, il n'y a pas d'autres crimes. Et au fil des semaines, au fil des mois, ni les frères England, ni Frank Morris ne vont réapparaître. Et peu à peu, les policiers commencent à croire que les hommes se sont noyés en tentant leur évasion. Et c'est la conclusion à laquelle va arriver le FBI parce que l'enquête ne sera pas fermée. En 1979, l'enquête sur les évadés d'Alcatraz sera transférée du FBI au bureau des marshals. L'enquête est toujours ouverte, mais on n'a jamais eu la moindre preuve que les types avaient réussi. Et ce qui inquiète les policiers là-dedans, ce qui les rassure plutôt dans leur conclusion, c'est que Frank Morris, qui était un peu le leader du groupe, est un individu excessivement brillant. Le type avait plus de 140 de quotient intellectuel. C'est vrai que quand on pense à Frank Morris, on voit les images du film L'évadé d'Alcatraz, personnage qui était incarné par Clint Eastwood, mais Frank Morris n'était pas Clint Eastwood. Frank Morris était vraiment, parce que Clint Eastwood nous le rend sympathique, le Frank Morris. Mais dans les faits, c'était un criminel de carrière. Il avait de nombreuses agressions avec violence à son actif. C'était vraiment un individu peu recommandable. Mais c'était un individu également qui était excessivement narcissique. C'était toujours lui, lui et lui. C'est peu vraisemblable qu'un individu comme Frank Morris ait réussi la plus grande évasion du 20e siècle et ne se soit pas amusé à la revendiquer, ne serait-ce pour rire à Rooney à la barbe des services de police. C'est comme ces assassins, on pense par exemple au tueur du Zodiac, qui dans les années 60-70 envoyait des lettres à la police de San Francisco en disant « Police San Francisco 0, moi 8, 6 ». Bon, il donnait des scores de ses victimes. C'est un individu narcissique qui peut faire ça. Et Frank Morris était exactement du même type. Il aurait certainement quelque part réclamé avoir réussi l'évasion d'Alcatraz. En 2013, parce qu'avant d'en finir, parce que je sais, il y a des gens qui nous écoutent, vont dire « Oui, mais il y a eu des preuves au fil des ans. » Effectivement, des petits éléments sont apparus au fil du temps qui ont entretenu l'idée que les évadés avaient peut-être réussi leur coup. En 2013, par exemple, la police de San Francisco reçoit une lettre supposément signée par John England, l'un des trois évadés. L'homme dit « Ce n'est pas une blague, je suis âgé de 83 ans. » Il dit également qu'ils ont réussi leur évasion, tous les trois. Ils ont coulé après ça des jours paisibles. Mais là, il dit dans sa lettre « Je suis âgé de 83 ans, je suis en mauvaise santé et je suis prêt à me rendre et à faire une année de pénitencier. » Ça, je fais une sorte de plea bargain, si on peut dire. Je suis prêt à refaire une année de pénitencier si, en échange, les autorités me donnent les soins médicaux appropriés à mon état. L'analyse de cette lettre-là, premièrement, l'ADN ne confirmera pas qu'il s'agit de John England. Il y a une analyse graphologique également qui ne seront pas concluantes, mais les policiers ne la prennent pas au sérieux pour deux raisons. Si l'auteur était réellement John England et qu'il voulait prouver qu'il était John England, il n'avait pas besoin de commencer sa lettre en disant « ceci n'est pas une blague ». Il n'avait simplement qu'à mettre son empreinte digitale ou quoi que ce soit qui aurait démontré de façon certaine son identité, que c'était lui. Ensuite, dans une société où les médias à sensation sont omniprésents, si John England cherchait des soins médicaux, alors qu'on est prêt à payer des centaines de milliers de dollars pour les aveux d'une secrétaire qui a fait une fellation au président des États-Unis, Et voilà que le gars qui a réussi l'évasion d'Alcatraz pourrait révéler comment ils s'y sont pris. On aurait payé des milliers, des centaines de milliers de dollars pour un truc comme celui-là. Alors non, il préfère se tourner vers les services de police en disant « Je suis prêt à faire une année de pénitencier si vous me donnez des soins. »
Je me sens coupable 50 ans plus tard.
Les policiers n'ont jamais pris cette lettre au sérieux. Lettre qui a été rendue publique uniquement en janvier 2018. Et puis l'an dernier, dans un documentaire au History Channel aux États-Unis, qui s'intitulait Alcatraz, The Search for the Truth, à la recherche de la vérité, on a interrogé des membres, des neveux, des cousins, des frères England, et l'un d'entre eux a montré une photographie prise apparemment dans les années 70, au milieu des années 70, où on voit deux hommes quelque part dans un champ, qu'on nous dit être au Brésil, et on nous dit ces deux hommes-là pourraient être les deux frères England, John et Clarence England, qui prouveraient qu'ils auraient réussi l'évasion. Mais une analyse morphologique des traits de la photo ne permet pas de conclure qu'il s'agit bel et bien des frères England. Alors, en dehors de preuves, comme ces preuves-là ne sont pas pour l'instant convaincantes, le bureau des marshals reste sur la position que les trois évadés d'Alcatraz, s'ils ont réussi à quitter le pénitencier, n'ont pas réussi à quitter la baie de San Francisco et ils sont probablement tous les trois décédés dans cette tentative d'évasion.
En 2-3 minutes, la bête du Gévaudan.
Écoute, c'est une histoire qui, 250 ans plus tard, continue d'alimenter la littérature sur les phénomènes étranges. On est en juin 1760. On se trouve dans une région de la France, région assez centrale de la France qui s'appelle le Gévaudan. Pour nous situer aujourd'hui, c'est l'actuelle Lozère en France. Donc, c'est un endroit avec des montagnes, des collines escarpées et de la forêt. Et voilà que des gens commencent à être agressés par un animal inconnu. Et là, semaine après semaine, l'animal en question, qu'on surnomme rapidement la bête du Gévaudan, tue des femmes, des enfants et multiplie ses attaques. En décembre 1764, comme on n'est pas capable de battre la bête, parce que, bon, évidemment, des milices se mettent en charge, à l'époque, il faut savoir que le roi de France, depuis une dizaine d'années, a interdit les armes. Donc, les gens sont seulement équipés de ce qu'on appelle des paradous, donc des bouts de bois au bout duquel on a attaché une baïonnette, et c'est la seule arme. À quelques reprises, des gens vont voir la bête. Ils la décrivent tous de la même façon. Elle ressemble à un loup, mais ce n'est pas un loup. Et je te rappelle que ces gens-là connaissent bien les loups. Hein? Les loups sont partout en France à ce moment-là. Mais ces gens-là sont catégoriques. L'animal en question n'est pas un loup. Il ressemble à un loup, mais son museau est plus étiré. Il a une espèce de raie noire sur la queue, sur le dos. Sa queue est beaucoup plus touffue. Sa mâchoire est plus massive que celle d'un loup. Ça ressemble à un loup, mais ce n'en est pas un.
Alors, là, on ne parle pas de 2-3 morts. Là. Il y en a eu beaucoup.
Il va y avoir 200 morts à peu près d'enregistrés au cours de cette période, parce que la bête va faire des ravages entre 1764 et 1767. À un moment donné, l'évêque de Mende va même dire, en rappelant aux gens, si on n'est pas capable d'abattre la bête, c'est parce qu'elle est surnaturelle. C'est un envoyé de Dieu. C'est le fléau de Dieu. Donc, on dit aux gens, vous devez vous repentir. Vous devez pardonner. Vous devez demander pardon pour vos péchés. Et la bête va continuer à tuer. En 1765, Louis XV va même envoyer son porte-arquebuse qui va tuer un gros loup. Et c'est ce qu'on voulait. Hein, un échappatoire. On tue un loup, voilà, le loup est mort, la bête est morte. Mais la bête continue de faire des ravages. Et puis, en juin 1767, un homme va tuer un animal près du mont Mouchet. Et à partir de là, la bête du Gévaudan va disparaître.
Mais c'était quoi, finalement? On ne sait pas.
Évidemment, on croit à un chien. Certains pensent à une espèce de molosse.
Christian.
Oui, on pense à un molosse, une espèce de chien qu'on appelle chien gladiateur. Donc, un animal, un molosse entre un loup et un chien qu'on aurait dressé pour tuer. D'autres parlent même d'une hyène qui aurait pu être apportée d'Afrique. Et on évoque même la possibilité d'un tueur en Syrie. Parce que la bête, parfois, dévorait ses victimes. Mais à d'autres occasions, elle les déshabillait, les décapitait, leur replaçait le chapeau sur la tête. Ouais. Alors, la bête était-elle accompagnée d'un homme? Est-ce que c'était un duo, la bête et son maître? 250 ans plus tard, l'énigme de la bête du Gévaudan n'a jamais été tout à fait révolue.
Christian Page, merci encore une fois de ces histoires passionnantes.
Ça me fait plaisir.
Salut bien, on se retrouve quelque part un peu plus tard cet été ou à l'automne.
Oui, absolument.
Salut
Mathieu.
Bien. Au revoir.
Ciao.